la qualité en toute simplicité. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, la radio qui vient vers vous pour vous servir. Fidèles auditeurs et amis de la radio chrétienne Ebenezer International, je vous salue très fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous remercie de votre intérêt pour cette radio dont l'objectif principal est de vous pourvoir de bonne nourriture spirituelle. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis son home studio basé en France métropolitaine. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de nous avoir mis à votre service par le biais de ce média. Sachez que nous apprécions beaucoup votre intérêt pour ce travail et nous comptons sur vos prières également pour que nous puissions persévérer, aller de l'avant en dépit des difficultés que nous pourrons rencontrer sur notre chemin. Le message de ce jour a pour titre « Donner son cœur sans vendre son âme ». C'est une courtoisie de l'Institut biblique de nos gens, de qui nous recevons très souvent des messages de ce genre pour l'édification de nos aimables auditeurs et auditrices. Je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe de l'IBN, lui renouvelle ma gratitude pour cette fraternelle collaboration. À Dieu et à lui seul soit toute la gloire. J'aimerais également vous rappeler qu'il est important d'envoyer notre adresse à vos amis, vos proches, vos collaborateurs, afin qu'ils puissent visiter notre site et voir les différentes émissions que nous mettons à leur disposition. L'adresse est bien le www.radioeben-ezerinternational.com. Je répète, le www.radioeben-ezerinternational.com. Pour vous servir au micro, votre ami podcasteur Franck Doristil. C'est bien l'artiste québécoise Andréanne Lafleur qui va nous offrir le premier morceau à notre programme intitulé « Toi et moi » que je dédie à tous les jeunes à l'écoute de ce programme qui leur est entièrement dédié aujourd'hui. Vous écoutez Logos Pod.
Quand j'étais petite, je voulais ressembler à ma princesse préférée. Oh yeah! Un jour qui serait trouvé l'amour inespéré. Yeah. Et celle des camps épais, pas parfaite comme dans les revues. Oh, est-ce que le bonheur m'est aussi défendu? Un sourire au poing ou un petit nez retroussé, c'est l'œuvre d'un génie qui nous a révélés. Beau et belle, c'est tout ce qu'il faut. La plus belle chose qui me rend différente. D'avoir la petite taille d'une même beauté. Comme les célébrités, si j'avais le approprié. choses qui ne rendent plus différents. Cette petite chose.
Vous écoutez Logospod sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Logospod avec Franck Doristil, votre ami podcasteur et également pasteur pour la radio chrétienne Ebenezer International, The Digital Gospel Journal. Donner son cœur sans vendre son âme. Chers amis à l'écoute, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Par cette formule, c'est le thème du choix du conjoint que l'on veut évoquer. Un thème qui vous concerne tous, du moins si vous n'êtes pas déjà marié et si Dieu ne vous a pas accordé le don particulier du célibat. Donner son cœur sans vendre son âme. L'ambivalence de la formule ne vous aura pas échappé. Un thème qui, sur un plan concret, n'est pas simple. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes complexes et nous correspondons rarement à l'homme idéal ou à la femme idéale. Que les garçons se souviennent de ce qu'un poète grec, Aristophane, disait à propos de la femme. Pas moyen de vivre avec et pas moyen de vivre sans. Quant à vous, les filles, n'oubliez pas que les princes charmants, quand ils ne sont pas en chocolat, ne se trouvent pas que dans des contes. Non, bien choisir son conjoint, ça n'est pas simple. Comment s'y prendre? Je veux dire, comment s'y prendre pour ne pas se tromper? Cette question a d'ailleurs une portée particulière lorsque nous sommes chrétiens. Nous voulons veiller attentivement sur notre âme et ne pas déplaire au Seigneur en lançant notre cœur dans une mauvaise direction. Comment donc s'y prendre pour trouver son conjoint? On peut s'en remettre au hasard. D'ailleurs, à propos du mariage, on a pu dire que c'est une loterie. Heureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Ou bien, on peut attendre le coup de foudre. Oh, vous l'aurez peut-être ici, ce soir. Mais admettez que ce n'est pas certain. Et quoi qu'il advienne, d'ici la fin de la soirée, il faut que vous attendiez que le coup de foudre n'est pas encore l'amour. Avoir le coup de foudre, c'est même parfois se faire simplement illusion sur quelqu'un. En tout cas, chers amis à l'écoute, chers jeunes qui suivez ce programme, sachez que l'éventuel coup de foudre doit vite évoluer pour devenir amour. Sinon, il ne mènera à rien de bon. Alors, on peut directement demander un signe à Dieu. Attention, pourtant, de ne pas abuser de cette méthode, car on pourrait facilement s'abuser. Un jour, une fille a dit à Dieu, « S'il tombe de la neige demain, je conclurai que tel garçon est pour moi. » Or, le lendemain, elle a ouvert la fenêtre de la neige. Comme vous pouvez l'imaginer, ils se sont donc mariés. Mais ça a duré 15 jours. Notez-le bien, 15 jours. Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Ne soyez donc pas obnubilés par les signes. Profitez par exemple de cette soirée sans vous dire « il ou elle est peut-être dans la salle ». Alors que ce soit la deuxième personne qui va tousser à partir de maintenant. D'ailleurs, ne vous laissez pas non plus abuser par quelqu'un qui viendrait vous dire « le Seigneur m'a dit que c'est toi ». Décidément, au lieu de rechercher des signes, chers jeunes qui m'écoutez, d'une sorte ou d'une autre, efforcez-vous de comprendre la volonté de Dieu. Parfois, nous voudrions que Dieu choisisse à notre place, inconsciemment, pour ne pas avoir à renoncer aux autres conjoints potentiels. Mais tout de même, comment s'y prendre? Peut-être doit-on déjà bien s'entendre sur ce qu'il s'agit de trouver un conjoint. Bien sûr. Mais qu'entendre par là? Faudrait-il trouver sa propre moitié que Dieu aurait placée quelque part? Cette histoire de moitié fait davantage penser au mythe des androgynes qu'au message de la Bible. C'est le mythe et non pas la Bible qui raconte que les êtres humains auraient été à l'origine coupés chacun en deux moitiés, qui, depuis, ne cesseraient de se chercher l'une l'autre. Quand on tombe amoureux, on ne tombe pas amoureux de sa moitié, mais de quelqu'un d'autre, comme l'expliquait un psychothérapeute. Et former un couple, ce n'est pas se fondre l'un dans l'autre de sorte que l'homme et la femme perdent le sens même de leur individualité. Chers amis auditeurs et auditrices, chers jeunes qui m'écoutez en ce moment, dans le couple, les conjoints doivent se faire l'un à l'autre résolument, sachant qu'aucun des deux ne correspond à l'idéal rêvé par l'autre. Bref, c'est son conjoint qu'il s'agit de trouver et non pas sa moitié. Pour cela, on gagne à prendre au sérieux les directives divines qui se trouvent dans la Bible. Si on ne le fait pas, on peut malgré tout réussir à se marier, mais on risque fort de vendre son âme en donnant son cœur. Veux-tu obéir à Dieu et lui faire confiance pour construire ta vie? Ou préfères-tu te fier aux animateurs de télévision et aux autres faiseurs d'opinion qui proposent leur prêt-à-penser au tout venant? Pourtant, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, et c'est Dieu qui a inventé le mariage. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin, nous dit la Bible, dans le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 5 et 6. On se fait parfois une fausse idée de Dieu, au point de penser « si je me laisse conduire par lui pour le choix de mon conjoint, il risque de me trouver une personne ennuyeuse, peut-être très pieuse, mais aussi très laide. » Quelle méprise! Se conformer aux instructions divines, c'est précisément ce que fait celui ou celle qui vise le bonheur, qui aime la vie. Il n'y a aucune contradiction entre aimer Dieu et aimer la vie telle que Dieu la donne. Encore, chers amis à l'écoute, faut-il comprendre que l'on ne peut pas aimer la vie et voir des jours heureux, comme nous le dit 1 Pierre chapitre 3 verset 10, si on ne choisit pas la vie, si on ne choisit pas le bien, si on ne suit pas les orientations bibliques. Or, en matière de conjugalité, l'orientation biblique fondamentale est donnée dans le récit de la création. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, nous dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 24. Une pause musicale. Nous vous reviendrons avec la suite de ce message. Il s'agit de l'artiste chrétien Peter Lotz dans ce morceau intitulé « Viens ». Bonne écoute à toutes et à tous. Vous écoutez Logos Pod sur la radio qui vient vers vous pour vous servir.
Sur la route qui menait à toi, sur le chemin, sur la voie, sur les sentiers de nos vies, on s'est croisés un peu comme ça. J'ai lu dans ton regard tant de lueurs et tant d'espoir, tant de douleur, si peu d'amour, un cri d'alarme au petit jour. Viens, viens avec moi, je t'emmène où tu veux, où tu vois. Pour le combat de tous les jours, il y a la force, il y a la foi. Tous ces petits gestes d'amour, tellement petits qu'on ne les voit pas. Je vois du ciel dans tes yeux, sans un nuage, rien que du bleu, du vert, en signe d'espoir, et des étoiles qui font l'histoire. Viens, viens avec moi, je t'emmène où tu veux, où tu vois.
Gospod, l'émission d'édification et de prédication de la radio chrétienne Ebenezer International. Logospod avec Franck Doristil, votre ami podcasteur. Chers amis à l'écoute, chers jeunes qui suivez ce programme, dans cette deuxième partie, nous avons trois enseignements à considérer. Le premier, quitter père et mère doit précéder l'union, en particulier l'union sexuelle. Or, quitter père et mère est un fait de nature sociale, une mutation importante des structures de la vie collective. Alors même qu'au commencement, il n'y avait qu'Adam et Ève, le texte fait donc valoir qu'avant d'être une seule chair, l'homme et la femme doivent effectuer une rupture sociale, l'arrachement avant l'attachement. Il s'agit de se séparer avant de s'apparier, comme on a pu le dire. Il y a dans la Bible un chant, le plus beau des chants inspirés, c'est le cantique des cantiques. Et ce qui y est célébré, c'est l'amour humain. Or, cet amour est appelé une flamme du Seigneur. Autrement dit, c'est un don de Dieu. Mais s'il est don de Dieu, ça veut dire que c'est dans le cadre voulu par Dieu que cet amour peut connaître sa liberté. Quel est donc ce cadre? Clairement, c'est le mariage. Il suffit de relever l'usage du mot « noce » ainsi que du mot « marié » dans le cantique. L'amour qui s'y exprime avec tant de passion et de vivacité est l'amour de l'homme et de la femme qui se marient. Le deuxième, attiré du texte de la Genèse, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme » et ils deviendront une seule chair. C'est Jésus lui-même qui le donne. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, verset 6. Le mariage, chers jeunes, chers amis à l'écoute, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une aventure à prendre à la légère. De fait, Jésus engage les conjoints à la permanence de leur union. Il leur prescrit la fidélité. Autrement dit, chers amis à l'écoute, le mariage n'est pas un CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, mais plutôt un CDI, un contrat à durée indéterminée. Trop d'unions sont contractés pour le meilleur et pour le rire, R-I-R-E. On s'estime lié, mais tant que ça n'est pas trop exigeant, que ça ne coûte pas trop, tant que l'autre nous donne satisfaction. Pourtant, on ne saurait bien se marier en tenant la fidélité pour optionnelle et la pérennité pour secondaire. Si vous n'en êtes pas convaincu, alors je crains que vous ne passiez à côté du bonheur. Le dernier que je dégage de la formule « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair », c'est que l'union conjugale embrasse les divers domaines de l'expression humaine. En effet, le mot « chair » dans la Bible n'évoque pas que le corps. « Chair » évoque aussi tout l'être humain. L'union conjugale concerne donc la vie humaine dans toutes ses dimensions. Le mariage ne mobilise pas seulement deux corps. Il mobilise aussi deux esprits qui, s'ils n'ont pas à fusionner, doivent toutefois vibrer ensemble. Eh bien, cela implique déjà, je crois, l'obligation pour un croyant de se marier avec une croyante et l'obligation pour une croyante de se marier avec un croyant. Je ne vais pas reprendre cette phrase, mais sachez qu'il en va de la réussite même du mariage. Sinon, l'union aura une piètre allure. Sans communion spirituelle, le couple sera disparaître, tiraillé par des aspirations contraires. Bref, pour donner son cœur sans vendre son âme, il faut choisir de prendre au sérieux les directives divines. C'est en tout cas ce qu'est censé faire le chrétien. Premièrement, il s'efforcera de vivre dans la continence avant de se marier. Deuxièmement, il envisagera le mariage comme un engagement pour la vie. Troisièmement, il se gardera d'épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Agir ainsi, c'est aimer la vie. Mes amis, ne méprisez pas la vie. Donner son cœur sans vendre son âme. Nous venons de baliser le sujet en signalant trois instructions bibliques que prendra au sérieux quiconque veut aimer la vie et voir des jours heureux. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Prenons le temps maintenant de développer ces idées. Tout d'abord, voyons la nécessité de réserver l'acte sexuel au mariage. Dieu a voulu que ce soit uniquement dans le cadre du mariage que l'on ait des relations sexuelles. Ceci dit, je n'ignore pas les objections faites couramment à celui qui ose confesser une telle opinion. Pourquoi donc tenir pour illégitime les relations hors mariage de deux personnes qui s'aiment et qui s'engagent même l'une envers l'autre? D'ailleurs, est-ce que de telles personnes ne sont pas mariées de fait? Pour répondre, il faut rappeler que la Bible désigne le mariage comme une alliance. Or, qu'est-ce qu'une alliance? C'est, au bas du mot, un engagement mutuel, scellé par une parole. Dieu a voulu que l'homme et la femme ne s'engagent pas dans l'intimité des corps avant de s'être engagés par une parole donnée. Mais ce n'est pas que cela. Une alliance. Il ne suffit pas que deux personnes s'engagent en privé par une promesse sincère. En effet, une alliance a aussi une dimension sociale, d'où le passage à la mairie et l'imposition d'un certain cadre juridique. C'est donc le mariage comme institution qui est le cadre voulu par Dieu pour l'union sexuelle. Dès lors, ne vous laissez pas égarer. Ce ne sont ni l'intensité de l'amour, ni même les qualités de responsabilité qui peuvent s'y attacher, qui justifieront des relations sexuelles avant le mariage. Au fond, cela se comprend. Ce n'est que dans le cadre stable du mariage que l'engagement des personnes est total et responsable. Donc, ce n'est que dans ce cadre-là que l'union physique est vraie, qu'elle exprime en vérité le don de soi et l'unité du couple, y compris sur les plans social et juridique. Alors, si vous savez ces choses, heureux êtes-vous, pourvu que vous les mettiez en pratique, selon Jean chapitre 13, verset 17. Bon, très bien, me direz-vous, peut-être. Mais que feront un garçon et une fille qui se découvrent des atomes crochus et qui prennent le chemin du mariage? Ils confessent que l'acte sexuel est réservé au mariage et à lui seul. Mais quel degré d'intimité physique pourront-ils se permettre? Eh bien, ne comptez pas sur moi pour vous donner de consignes très précises. Néanmoins, je ne peux pas tout bonnement esquiver la question. Au fond, puisque le mariage se prépare, je souscris à l'idée suivante. L'intimité physique doit être proportionnelle à l'union réelle des personnes. L'union réelle n'est totale que dans le mariage, mais pendant les fiançailles, elle s'esquisse et s'affirme de plus en plus au fur et à mesure que s'affirme le projet de mariage. Par conséquent, si l'intimité physique complète est réservée au mariage, un certain degré et un certain progrès dans l'intimité physique sont légitimes pendant les fiançailles. Cette idée ressort d'ailleurs de la lecture du début du Cantique des Cantiques. Bref, lorsque deux personnes ont l'intention de se marier, elles ont le droit de s'embrasser. Mais attention, la relation amoureuse n'est pas un jeu. Si vous vous tenez par la main, vous devez également vous tenir par le cœur. Ce qui prépare à l'union physique est réservé à la préparation au mariage. Soyez donc honnête. Soit vous et votre fiancé envisagez d'aller plus loin ensemble, soit vous rompez. Et ne croyez pas que c'est en mettant de l'intimité physique dans votre relation que vous créerez de l'engagement mutuel. Ce n'est pas dans cet ordre qu'il faut prendre les choses. Alors, je sais combien peut être forte la pression sociale pour que vous agissiez comme les autres. La pub et le peuple répètent à l'envi qu'on n'est pas normal si on n'a pas de petits copains ou de petites copines. Si on n'a jamais embrassé un garçon ou une fille. Si à 18 ans, on n'a pas de vie sexuelle régulière. Ah, la tyrannie du sexuellement correct. Résistez, résistez, mes amis. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir le courage, si nécessaire, de nager à contre-courant. Ce qui doit en effet déterminer votre conduite, c'est la parole de Dieu et la capacité de vous conformer à cette parole vous est donnée par le Saint-Esprit. Résistez. Et si vous venez à pécher, repentez-vous. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. 1 Jean 2, verset 1er. La grâce de Dieu peut faire pousser des fleurs sur un tas de cendres. Nous allons prendre une autre pause et nous vous reviendrons avec un autre point de ce message. C'est bien l'artiste Peggy Polito qui va nous chanter « Mon prince charmant ». Je vous souhaite une agréable écoute et je vous rappelle que vous suivez l'émission Logos Pod sur la radio chrétienne Ebenezer International, programme animé et produit par Franck Doristil, votre ami podcasteur et pasteur pour ce ministère, Ebenezer International. Every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Journal, Ebenezer International, your station.
Par le plus grand des hommes, son amour n'a pas de fin, car chaque jour il me pardonne. parce que tu es là, tu es là. Je suis heureuse alors, je le chante. Une belle histoire d'amour entre toi et moi, toi et moi. Tu es mon prince charmant. Avant de te connaître, je vivais sans être en un coup de baguette. Je me sens renaître. Tu es mon beau diamant, mon héros vaillant. Même en rêvant, je n'avais jamais espéré autant. Je me sens vivre seulement parce que tu es là.
Écoutez Logospod sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Logospod avec Franck Doristil, votre ami podcasteur et pasteur pour la radio chrétienne Ebenezer International. Fidèles auditeurs et auditrices, chers jeunes qui suivez ce programme, dans la dernière partie de l'émission, nous verrons la nécessité de viser la permanence de l'union conjugale. Là encore, impossible d'ignorer la meute déchaînée qui nous poursuit de ses abois. Comment est-il utile et même possible de maintenir ensemble un homme et une femme quand ils n'éprouvent plus d'amour l'un pour l'autre? Faut-il vraiment commander cette perspective-là du mariage? Si on s'interroge ainsi, c'est que l'on réduit, mine de rien, l'amour au sentiment irrésistible qui s'empare d'un cœur à l'improviste et qui est éternel tant qu'il dure. Alors, fatalement, le raisonnement est le suivant. Si le sentiment vient à disparaître, mais que l'on se montre encore fidèle, alors on vit dans l'inauthenticité. D'ailleurs, cet argument amène facilement à considérer l'engagement pour la vie comme hypocrite. Pourtant, chers amis à l'écoute, il y a une autre façon de voir les choses. Il s'agit de saisir que l'amour, loin de se résumer à un sentiment, est surtout un acte de volonté. Par conséquent, lorsqu'il arrive que des conjoints ne ressentent plus rien, s'ils restent malgré tout ensemble parce qu'ils ont décidé de le faire, eh bien, il s'avère qu'ils s'aiment. Au fond, l'amour, mes amis, ça ne se perd pas, mais ça s'abandonne. tu abandonnes l'amour que tu avais au début, nous dit Apocalypse 2, verset 4. Tel est bien le reproche du Seigneur à l'église d'Éphèse. Tout compte fait, les gens mariés ne sont pas condamnés pour s'aimer et demeurer fidèles à être amoureux tout le temps. D'ailleurs, être amoureux ne peut pas constituer la base de toute une vie. En effet, c'est bien joli comme sentiment, mais ça peut vous mettre dans un drôle d'état. Je sais de quoi je parle. Je vous mets au défi d'arriver à supporter la tension de l'état amoureux pendant de nombreuses années. C'est un état extraordinaire qui déculpe le courage et la générosité, mais aussi qui affole les compteurs de la vie courante. Comment pourrait-on en sortir intact? Votre travail, votre appétit, votre sommeil ou vos amis? Heureusement, cesser d'être amoureux n'implique pas cesser d'aimer. Parce que l'amour n'est pas qu'un sentiment. Si, voyez-vous, le mariage est comme un moteur, eh bien, il faut dire qu'il est mis en marche par l'étincelle du sentiment amoureux, mais qu'il fonctionne durablement grâce au carburant de l'amour qui est délibérément apporté. Alors, voilà ce qu'il faut. Aimer, décider d'aimer son conjoint au futur conjoint, prendre le parti de l'aimer plus que le sentiment amoureux procuré. Or, pour cela, une aide est prévue. L'alliance par laquelle on se lie à son conjoint pour construire résolument une relation d'amour à laquelle on assigne forcément le but de la fidélité physique. L'on s'engage publiquement par une parole donnée. Cette alliance, qui a aussi un aspect légal, est une force que l'on donne soi-même à son engagement de cœur. En fait, il n'est carrément pas logique de se marier tout en se disant « on reste ensemble en tant que ça marche ». En effet, se marier, c'est s'engager que les choses aillent bien ou pas. Et si une grande difficulté surgit, alors on ne dira pas « bah, on n'est pas fait pour être ensemble ». Non, on dira au contraire, cette difficulté, il faut qu'on la surmonte. Et vous savez quoi, chers amis à l'écoute? De ce parcours, on ressort plus fort. Comme dit le psaume, d'étape en étape, la vigueur s'accroît pendant le voyage. Psaume 84, verset 8. Mes amis, ne briguez rien de moins que cela pour votre relation conjugale. Ayez ainsi de l'ambition. Oh, il ne s'agit pas de faire le fanfaron, mais de se soumettre avec confiance au dessein de Dieu, en comptant sur lui, sur sa grâce. D'ailleurs, Dieu lui-même, en faisant alliance avec les siens, constitue pour nous un modèle de générosité et de constance. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais, mon alliance de paix ne chancellera jamais. Ésaïe 54, verset 10. La nécessité pour un chrétien d'épouser quelqu'un qui partage sa foi. Alors, dire ça, n'est-ce pas quand même poussé le bouchon un peu trop loin? Est-ce que la Bible commande vraiment cela? N'y a-t-il pas des gens bien parmi les non-chrétiens, des gens aimables, vertueux, ayant toutes les qualités pour rendre leur conjoint heureux? Soyons clairs. Il est hors de doute que nombre de personnes non-chrétiennes ont de la classe, de grandes qualités de cœur, parfois bien plus que certains chrétiens. Mais la question n'est pas là, chers amis à l'écoute. Il s'agit plutôt de prendre au sérieux la parole de l'apôtre Paul. En effet, autorisant le remariage des veuves chrétiennes, il précise, à condition bien entendu, que ce soit avec un chrétien, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Autrement dit, l'apôtre lui-même s'en rapporte au principe général du mariage d'un chrétien avec quelqu'un qui partage sa foi. Voilà quelle est pour Paul la règle. On peut d'ailleurs la déduire encore de cette autre parole de l'apôtre. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? Que peut avoir de commun le croyant avec l'incroyant, selon 2 Corinthiens 6, verset 15? Si l'apôtre ici ne vise pas directement le sujet du mariage, il souligne toutefois d'un point de vue général que la croyance ne saurait s'allier avec l'incroyance. Or, existe-t-il dans la société une association plus étroite que le mariage? Amis à l'écoute, il en résulte que le mariage d'un croyant avec quelqu'un qui n'a pas la foi est bel et bien contraire aux instructions apostoliques. D'ailleurs, comment contester l'importance de l'harmonie spirituelle dans le couple? A priori, vous en conviendrez, un croyant fera du royaume de Dieu sa préoccupation première, selon Matthieu 6, verset 33. Alors qu'un non-croyant, même respectueux de la religion, n'aura pas les mêmes visées. D'une telle divergence au sein du couple s'ensuivront, je le crains, bien des souffrances, en particulier pour le croyant. De fait, comment pourra-t-il supporter que cet aspect de la vie qui compte tant pour lui ne soit pas partagé par son conjoint? Comment pourra-t-il supporter le décalage entre lui et son conjoint au sujet de la participation à la vie de l'Église? Comment pourra-t-il supporter que les enfants qu'il aura peut-être soient sans cesse confrontés à deux visions contraires du monde? Et ne vous leurrez pas, mes amis, en faisant le pari de votre fiancé qui n'a pas encore de foi va se convertir, en réalité, vous n'en savez rien, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 16. Il se pourrait bien d'ailleurs que, pour vous plaire, votre fiancé se mette à fréquenter votre église et même répondre à un appel à la conversion, mais sans pour autant être devenu enfant de Dieu. Sachez aussi que votre conjoint sera la personne qui influencera le plus votre vie, pour le meilleur et pour le pire. Bref, c'est avec quelqu'un qui partage sa foi qu'un chrétien se mariera. Pourquoi? Parce qu'il tient trop à Jésus-Christ pour risquer de le renier, parce qu'il veut non plus vivre simplement à côté de quelqu'un, mais former un véritable couple, et parce qu'il entend tout simplement obéir à la parole de Dieu. Ah, comme je voudrais qu'aucun de vous ne se berce d'illusions sur la pensée de Dieu concernant les relations avant le mariage, la durée du mariage et l'harmonie spirituelle dans le mariage. Car pour ne pas se priver de la grâce divine par laquelle seul on a la vie, il faut se garder de nommer le mal bien et le bien mal, selon Ésaïe chapitre 5 verset 20. C'est d'ailleurs le premier choix à faire. Au lieu de déterminer soi-même le bien et le mal, laissez en quelque sorte Dieu être Dieu. C'est ce choix qui permet de naître à la vie nouvelle que Jésus donne quand on se repent et quand on le reçoit comme son Sauveur et Seigneur. Assurez-vous, chers amis à l'écoute, je vous en prie, d'avoir bien fait ce choix fondamental en faveur du Christ. Mais ensuite, il s'agit jour après jour de choisir de faire le bien que Dieu a défini en s'appuyant sur lui. En effet, la foi engage, la foi oblige, elle détermine la vie pratique et elle permet de voir des jours heureux selon 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Chers amis à l'écoute, chers jeunes qui nous suivez en ce moment, alors que nous nous approchons vers la fin de ce message, choisissez donc la vie que Dieu offre en respectant les consignes bibliques concernant le mariage et sans le soupçonner de vouloir vous étouffer. Non, il n'y a pas d'arrière-pensée en Dieu. Il veut seulement que ses enfants vivent pleinement. Dieu n'est pas un père castrateur, mais un père donateur. Alors, ne cessez pas de choisir la vie en réitérant votre oui à Dieu et en lui faisant confiance. Mes amis, ferez-vous le choix d'une vie clairement ouverte à Dieu, dans la confiance en son amour et en sa sagesse? Il y a tant à recevoir, tant à découvrir en s'ouvrant à ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour qui vous aime et qui a donné son propre Fils pour vous sauver de la condamnation éternelle. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour ces précieux conseils que tu as envoyés à tes enfants, ces jeunes qui représentent l'avenir de ton Église de demain, sachant que leur foyer occupe une place importante dans ton plan. Nous prions pour que tu les aides à mettre en pratique ta parole et en se bouchant les oreilles aux cris qu'ils entendent chaque jour que leur lance la société d'aujourd'hui. Donne-leur, Seigneur, de choisir de t'obéir afin que leur choix puisse correspondre à ton plan parfait pour leur vie. Nous te prions ainsi au nom de Jésus notre Sauveur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Notre dernière pause musicale avec l'artiste chrétien Olivier Choa, Persévère. Bonne écoute à toutes et à tous.
Un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère. sévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.
Qualité en toute simplicité. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal. La radio qui vient vers vous pour vous servir. Amis fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, nous arrivons à la fin de ce programme qui était consacré aujourd'hui de façon très spéciale à nos jeunes. J'espère que ce message leur a beaucoup plu et qu'ils ne manqueront pas de nous faire part de leurs réactions. Ils pourront nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook, Viadeo, LinkedIn, Twitter et même le site Instagram où nous avons également un profil. Nous attendons vos commentaires qui nous aideront à améliorer également la qualité de notre programme en vue de votre édification spirituelle. Et je ne manquerai pas de remercier également tous les artistes qui ont apporté leur fraternelle contribution à la réalisation de ce programme, tels que l'artiste Peggy Polito, Andréane Lafleur, notre frère en Jésus-Christ Olivier Choua, que nous saluons fraternellement, le couple Dani et Moïse Urdrel, à qui nous devons notre générique, sans oublier la société Paul et Sephora, qui régulièrement nous envoient les CD de nos artistes chrétiens en vue de leur promotion sur nos ondes. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Logos Pod. Et comme je l'ai dit à nos jeunes qui sont à l'écoute de cette émission, j'attends également vos réactions, commentaires, suggestions, afin d'améliorer la qualité de notre programme. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous dit une fois de plus merci, que le Seigneur vous bénisse et vous laisse avec l'artiste Andréane Lafleur qui va nous interpréter un morceau intitulé « Prends-moi la main » que je dédie encore à tous les jeunes ainsi que leurs parents qui étaient à l'écoute de ce programme. Au revoir! Vous venez d'écouter Logos Pod sur la radio qui vient vers vous pour vous servir. Ebenezer International, The Digital Gospel Channel.
Jeune et pleine d'ambition, elle se battait pour la paix. Elle voulait faire la différence dans tout ce qu'elle faisait. Ton secours à ceux qui sont souffrants et apporter un changement en priant. Je ne crains rien, car je te vois.